Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mussien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Bonjour, c'est Yann. C'est tenu du 7 au 10 octobre dernier à l'Université de Technologie de Compiègne, la 30e édition de la Fête de la Science. L'opportunité de découvrir le travail des chercheurs, de rencontrer des scientifiques, de s'interroger sur les grands enjeux du 21e siècle et de participer à des ateliers, des débats, des conférences, des expositions et d'autres animations. La thématique de cette 30e édition était « L'émotion de la découverte ». On débute le reportage avec
Peggy Bailly, chargée de communication pour la Fête de la Science.
Est-ce que vous pouvez nous parler, s'il vous plaît, de cette 30e édition ?
Cette 30e édition à l'UTC ESCOM est basée sur une quarantaine d'ateliers. Et vous avez des ateliers sur des thématiques assez divers, aussi bien la biomécanique, l'intelligence artificielle, tout ce qui est lié à la médecine. Jeudi, on a accueilli 600 scolaires, hier 1500 scolaires. Aujourd'hui, apparemment, jusqu'à maintenant, on serait aux alentours de 500 personnes grand public, sachant que le samedi, on est ouvert de 13h30 à 18h également le dimanche. Ce sont essentiellement des anciens chercheurs et étudiants de l'UTC et de l'ESCOM qui animent les ateliers, qu'ils ont préparés en amont. Et donc, leur discours est assez... et fait en sorte pour que ce soit compréhensible de tous. Le but, c'est de vulgariser la science, de pouvoir discuter justement ensemble des nouvelles technologies. Et puis, pourquoi pas aussi et surtout susciter des nouvelles vocations.
On a parlé de l'UTC, mais aussi cette Fête de la Science est en partenariat avec l'ESCOM.
Oui, tout à fait. Vu que l'ESCOM, c'est jouxte l'UTC. Donc, on mène ensemble cette Fête de la Science.
Donc là, on est plus dans la chimie.
Là, on est plus dans la chimie, chimie organique et minérale. Et en plus, ce qui est sympa, c'est qu'on va directement dans les laboratoires. Et ce sont des thématiques, je dirais, plus axées pour les enfants, les scolaires. Des petits ateliers ludiques, visuels, qui durent à environ 5 minutes ou 10 minutes grand maximum. Et sont vraiment très, très intéressants, comme utiliser le luminol, tout comme les experts scientifiques. Enfin, voilà, c'est assez sympa.
Un mot sur la thématique. Cette année, c'est l'émotion de la découverte.
Cette thématique est une thématique choisie par le ministère. C'est le thème national. Après, il peut y avoir des ateliers liés à cette thématique ou pas, au sein même de l'UTC ou de l'ESCOM. C'est pas obligatoire. Mais c'est une thématique qui est donnée par le ministère. Et après, on peut s'adapter dessus ou non. C'est libre choix.
Comme souvent, pour chaque fête, une invitée d'honneur.
Ce sera demain, oui, à 14h30, lors de la visite officielle. C'est la rectrice de l'enseignement supérieur, qui est Madame Boriton. Merci.
Solène Moreau. Donc, je suis enseignante-chercheur à l'UTC, dans le laboratoire Robertval, qui est un laboratoire de mécanique, dans l'équipe acoustique et vibration. Et donc, il y a quelques années, on a décidé de monter quelques stands sur le son. Donc il y a un premier stand sur les ondes, pour aller jusqu'à l'onde acoustique, voir ce que c'est que le son, réellement. Donc ce premier stand, voilà, on va d'abord voir quelques exemples d'ondes, et puis voilà, bien sentir ce que c'est qu'une onde. Alors une onde, il faut la visualiser comme une vague. Donc c'est en fait, la définition, c'est une perturbation qui se propage dans un milieu. Donc sans déformation, c'est-à-dire que l'onde, elle ne va pas abîmer le milieu dans lequel elle se propage. Et après, ben, on va s'interroger sur ce qu'est le son. Et donc, on va faire une expérience visuelle pour visualiser le son, et puis ensuite une expérience auditive pour entendre avec nos oreilles donc les différentes phases du son, en fait, dans la pièce.
Qu'est-ce que vous avez comme matériel devant vous ?
Donc, on va émettre du son avec un haut-parleur. Donc, il y a une membrane qui vibre et qui va faire vibrer donc de l'air et donc créer une onde acoustique dans un tube. Et dans ce tube qui est fermé, on a mis des billes de polystyrène qui vont en fait suivre l'onde acoustique, la vague acoustique dans le tube. Combien de nœuds ? ventre.
Ce sont des recherches récentes ?
Alors non, ça c'est vraiment de la vulgarisation scientifique pour faire comprendre ce que c'est que le son. On a par contre un stand sur les silencieux, où là on montre un peu plus nos activités de recherche, avec les différents types de silencieux qui existent, et puis comment ils interagissent sur le son.
Johanna Daboul, je suis maître de conférence à l'Université Technologie de Compiègne en ingénierie mécanique et génie industriel plus spécifiquement.
Dans un premier temps, avant de parler de votre atelier, peut-être préciser ce que c'est l'ingénierie.
C'est l'art en fait de trouver des solutions sur des problèmes de la vie. Et donc du coup, on va avoir un vrai problème, j'ai un champ ici, mais du coup, il n'est pas très exploitable. Comment je vais l'exploiter ? On a des médecins qui ont besoin d'un outil pour faire des opérations, pour aider sur certaines maladies. Comment on va faire cet outil-là ? Et donc, on va avoir plein de problèmes très différents, mais qui touchent à toute la vie, que ça soit de construire un bâtiment ou se déplacer entre deux villes différentes, produire des produits comme là on a vu, il fallait produire des masques pour le Covid et tout ça. Et bien du coup, un ingénieur, il va venir, il va dire, il y a un besoin, il y a un problème, et bien comment on va le résoudre ? Quels sont les outils et les méthodes qu'on va mettre en place pour trouver une solution à ce problème-là ? Et puis il va construire cette solution.
Alors vous avez animé ce week-end un atelier qui a pour nom « Customisation de masse ».
Oui, alors la customisation de masse, c'est une des thématiques de recherche sur laquelle je travaille ici à l'UTC. C'est le fait de ne pas produire le même produit en 1000 exemplaires et le vendre à tout le monde le même. C'est de produire exactement le produit que veut le client, qui soit personnalisé selon ses propres goûts. Et donc, ça change notre façon de concevoir les produits, mais en même temps de les produire. Parce que dans ce cas-là, je ne peux pas, moi, décider de faire un t-shirt rouge et je le fais de toutes les tailles pour tout le monde. Je dois demander à chacun et à chacune quel t-shirt ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent dessus, quelle couleur, quel matériau. Et je dois fabriquer, du coup, un t-shirt unique pour chacun et chacune. Mais ça, c'est pas possible parce que ça coûterait très, 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 très cher. Et donc, il faut trouver un compromis en passant par une standardisation. Donc là, on utilise les Lego comme exemple. Donc, on a des pièces standards comme les Lego. Mais si on les mixe, on peut faire une multitude de choses très différentes.
D'où l'aspect important des mathématiques.
Oui, parce que du coup, en fait, c'est comme les Lego. À un moment donné, je viens et je vous dis, voilà la boîte de Lego, il faut me faire une voiture, ou il faut me faire un avion, ou une maison, ou une forêt. La première chose, c'est qu'il faut chercher dans les Lego quelles sont les pièces que vous allez utiliser. Parfois, c'est très compliqué de trouver ces pièces-là. Et on n'a pas beaucoup de temps pour les trouver. Et donc là, les maths, on va créer des modèles mathématiques qui vont chercher à notre place en scannant toutes les pièces qu'on a et nous dire quelles sont les bonnes pièces qu'il faut prendre pour fabriquer au plus vite le produit.
Des enfants, mais aussi des adultes à votre stand ce week-end ?
Oui, donc on a eu de la maternelle jusqu'à lycée, collège, et puis même des adultes et des parents qui nous ont posé des questions. Donc c'était assez sympa de pouvoir voir comment changer son discours et l'adapter pour des spectateurs très différents.
C'est ça, donc c'est de la pédagogie, c'est comment amener à parler de la customisation à un public différent.
Oui, parce que du coup, pour un enfant, on va lui parler de sa peluche qu'il aime beaucoup. Et pour un adulte, on va parler d'autres types de produits. On va pouvoir aller peut-être un peu plus loin aussi sur l'aspect mathématique. Mais c'est tout l'intérêt de la Fête des sciences, c'est d'expliquer aux nos plus jeunes et même à tout le monde qu'est-ce qu'on fait et c'est quoi l'intérêt de le faire. Et c'est un exercice assez... challenging, parce que ce n'est pas facile parfois d'expliquer à un enfant de 5 ans c'est quoi l'algorithme mathématique qu'on utilise pour faire de la customisation de masse. Mais c'est assez passionnant, c'est sympa.
Johanna, merci à vous. Je suis avec Paul.
Bonjour. Alors, je suis médiateur scientifique. Je travaille pour une association qui s'appelle TRACE.
Est-ce que vous pourriez présenter l'association Trace, s'il vous plaît ?
Donc Trace, c'est une association qui existe depuis une vingtaine d'années, qui fait de la médiation scientifique et de l'éducation populaire, des projets d'éducation populaire autour des sciences, surtout à Paris, en région parisienne, et puis à l'occasion ailleurs, comme aujourd'hui. On est une quinzaine de salariés et on travaille sur vraiment plein de projets très différents qui vont du stand de manip comme aujourd'hui au projet d'éducation aux sciences numériques, à la gestion d'un espace de culture scientifique, l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes à Paris. C'était un stand que je tenais, qui s'appelle Atome Crochu parce que c'est le nom de notre marque d'animation qu'on fait en itinérance un peu partout. Donc là, quand on fait appel à nous, c'est la compagnie Atome Crochu qui se déplace. Mais c'est toujours l'association Trace, c'est juste le nom de notre compagnie d'animation. L'idée, c'est que je suis médiateur scientifique, justement. Mon métier, c'est de savoir faire de la science avec du public, mais peu importe le public et surtout peu importe la science. Donc, je n'ai pas une expertise particulière dans une science particulière. Donc, il n'y avait pas un thème sur ce stand. On abordait un peu plein de thèmes. Il y avait de la bio, de la physique, des maths, de la chimie. Et donc, j'ai ramené du matériel pour faire un bon paquet d'expériences. Celle qu'on a fait tout à l'heure, c'était une extraction d'ADN. Donc le principe, c'était d'extraire l'ADN des personnes du public qui viennent en suivant un protocole qui est assez similaire à celui qu'on fait dans les labos. Enfin, le point commun entre toutes les manips que j'ai préparées, donc ça comprend celle-là, c'est d'utiliser principalement du matériel qui peut se trouver facilement à la maison, autour de chez soi, qui n'est pas difficile à acheter, pas du matériel de labo. Donc ça peut être potentiellement quelque chose qu'on peut refaire chez soi.
Justement, pour les auditeurs qui n'étaient pas là, comment fait-on chez soi pour extraire son ADN ?
Alors, pour extraire de l'ADN, il y a plusieurs étapes, mais il faut être prêt à faire quelque chose de pas forcément très ragoûtant, parce qu'il va falloir cracher. L'ADN, il est dans les cellules du corps, donc il faut récupérer des cellules. Un bon moyen, c'est de récupérer des cellules de l'intérieur de la bouche. On peut se racler les joues avec ses dents, se gratter les joues avec les dents, et garder la salive qu'on produit à l'intérieur de la bouche. Ça nous fait tout un petit tas de salive qui s'accumule et dans lequel il y a des cellules qu'on a arrachées. Ces cellules, ensuite, on peut les cracher dans un verre. L'ADN, il est dans les cellules, donc il faut les faire éclater. Pour faire éclater les cellules, une bonne méthode, c'est de mettre du sel dessus. Donc vous pouvez mettre directement du sel dans le verre ou peut-être plus, c'est mieux de mettre de l'eau salée dedans, de mélanger. Ça fait éclater les cellules. Sauf que l'ADN qui a été libéré lorsque les cellules ont éclaté, il est soluble dans l'eau, donc on ne le voit pas. Alors d'abord, avant de faire ça, il y a quelque chose qui est pas mal de faire, c'est de rajouter un peu de liquide vaisselle ou de savon. Ça permet de faire le ménage un peu, de dissoudre les morceaux de membrane qui traînent encore de cellules et qui peuvent un peu gêner. Et puis aussi de rassembler les brins d'ADN les uns avec les autres parce que le savon les fait se rejoindre. Et la dernière étape, c'est de mettre autre chose que de l'eau pour que l'ADN puisse précipiter, sortir de l'eau pour être visible. L'éthanol, c'est un bon moyen de faire ça, de verser de l'éthanol tout doucement dans le verre où on a mis son crachat, sa salive mélangée à du liquide vaisselle et du sel. Verser de l'éthanol le plus pur possible, l'éthanol ménager à 96%, ça marche très bien. Verser ça dans le verre, il y a une couche d'éthanol qui se met dessus et petit à petit l'ADN va se précipiter dedans et va se mettre à flotter et on peut voir des filaments blancs.
Comment le public réagit ?
Alors, dégoûté d'abord, parce qu'il faut quand même cracher comme des gros dégoûtants dans un verre. Donc, il y a dégoûté et amusé en général, parce que vraiment tout le protocole est quand même rigolo à faire, à exécuter, même si des fois on ne voit pas trop où ça va, mais je l'explique à la fin. Tout le monde a plus ou moins entendu parler d'ADN à un moment ou à un autre, c'est quelque chose qu'on connaît bien. L'ADN est présent dans la culture populaire. Par contre, à peu près personne n'a eu l'occasion d'observer de l'ADN à l'œil nu. Et souvent, ça soulève aussi pas mal de questions, notamment savoir, mais ok, on vient de faire n'importe quoi, là, de cracher dans un verre, de mettre du sel, de mettre du liquide vaisselle. Les questions qui viennent, c'est de demander, mais il se passe quoi en vrai dans la recherche quand on veut observer de l'ADN, ça ressemble à quoi ? Et finalement, si on va voir un chercheur en biologie et qu'on lui demande, ou une chercheuse en biologie et qu'on lui demande, ils vont vous dire que c'est exactement ça qu'ils font, c'est juste qu'ils ont une méthode un peu plus propre, mais c'est exactement ce principe-là qui est utilisé pour l'extraire. Et donc d'avoir compris tout ce processus, ça permet vraiment de comprendre le processus utilisé dans la recherche de façon générale.
Paul, merci à vous. Voilà, c'était Yann. J'étais donc en ce samedi 9 octobre à l'Université de Technologie de Compiègne
pour la 30e édition de la Fête de la Science.
Merci de votre écoute.
Au revoir.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.